Voilà, donc à la fin novembre, je vous avais dit que j'avais pris une petite retraite personnelle devant Dieu, un temps où j'ai juste pris la parole de Dieu, quelques livres chrétiens et mon bloc-notes, et j'ai simplement demandé, Seigneur, je veux rester dans ta présence, je veux parler avec toi, je veux écouter ton cœur, je veux entendre, Seigneur, ce que tu veux me dire pour moi personnellement, mais aussi pour l'Église, pour la suite. Et dans ce temps, je vous avais dit, partagé que j'avais ressenti que le Seigneur me disait quelque chose en rapport avec la prière et le jeûne. Et ce matin, on va continuer à approfondir le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, mais en regardant précisément plus les mots prière et jeûne et rechercher sa face. Donc, on croit important que, comme le titre le dit, que la puissance du jeûne est de la prière. La puissance du jeûne est de la prière. La puissance du jeûne et de la prière. Alors on pourrait dire, mais comment faire, pourquoi qu'au mois de décembre, lorsqu'on est dans ce temps de célébration de joie, à la veille de cette période de Noël, pourquoi parler de prière, pourquoi parler de jeûne? Je vais vous lire tout à l'heure pourquoi, mais je pense que c'est important de pouvoir encore regarder ça ce matin. Prochain dia, donc la semaine passée, nous avons penché sur le même texte de 2 Chroniques 7, 14, en regardant plus le mot « humilité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et selon le dictionnaire, c'est marqué sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. Donc, cette définition dans le dictionnaire nous dit que c'est un état d'esprit qui a conscience que nous sommes faibles, que nous ne valons pas grand-chose. Même si nous avons fait beaucoup d'études, si nous sommes grands forts, si nous sommes beaux, si nous avons une belle place de travail, toutes sortes de bonnes choses, on sait que devant la vie, on ne vaut pas grand-chose. Et on a besoin de reconnaître notre humilité, reconnaître nos faiblesses, nos insuffisances. Et de le faire aussi avec le Seigneur, c'est ce qu'on va voir. Donc pour avoir cette pensée ou cette attitude, ça demande un effort. Parce que ce n'est pas vraiment une habitude en tant qu'homme ou en tant que femme de se rabaisser. Ce n'est pas dans les habitudes normales, même de notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, on vénère, on glorifie celui qui se renforce, celui qui écrase l'autre, celui qui passe par-dessus l'autre. Mais le Seigneur nous demande d'avoir cette humilité. Et on a vu la semaine passée comment que les exemples, le meilleur exemple, c'est Jésus. Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, il est venu sur terre, non pas avec orgueil, avec éclat, parce qu'il aurait pu en tant que Fils de Dieu, en tant que Seigneur, roi des rois, mais il est venu en toute discrétion. Discrétion, dans un petit crèche, dans une étable. Il n'y avait même pas de place pour eux, pour même dans une chambre normale. On a vu aussi comment que plus tard, aussi durant tout le ministère de Jésus, plusieurs fois comme Jésus s'est humilié. Comment aussi, lorsque quelques temps avant sa crucifixion, il est monté à Jérusalem sur un âne et les gens l'ont glorifié, ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais normalement, en tant que conquérant, en tant que personne, en tant que roi, on vient avec un cheval pour montrer le prestige. Mais lui est venu simplement sur un âne pour montrer qu'il ne cherchait pas à être glorifié à ce moment-là. Il ne cherchait pas la gloire à la façon humaine. L'ultime preuve que nous avons vue à travers Jésus-Christ, c'est que lui a été prêt d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de mourir sur la croix. Lui qui était le Fils de Dieu, il a été rabaissé à la plus grande souffrance, ou la plus infamie des souffrances, de mourir sur une croix. Et on a pu le voir dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il est dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc devant même l'injustice et la souffrance qu'il a vécue, Jésus est resté humble. Donc on voit à travers tout le cheminement de Jésus, comment que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il avait cette attitude d'humilité. Et même si aujourd'hui il est au ciel, il est en train de préparer une place pour nous, sa vie et son caractère est imprégné de l'humilité. Et nous sommes appelés comme lui, comme Jésus, à avoir ce caractère humble, être capable de s'humilier devant notre Seigneur, permettre qu'il puisse nous travailler en profondeur. Alors ouvrons notre Bible justement. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est vrai que c'est un texte qu'on connaît bien, mais on veut qu'on revoie encore qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce texte. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché. » Nous allons regarder justement ce matin le mot prier. Prier, c'est se mettre devant Dieu pour vivre un dialogue. C'est d'avoir une relation sincère avec notre Seigneur en lui parlant et en l'écoutant. C'est vrai que depuis quelque temps, on parle à l'Église de l'importance d'avoir une culture de prière à l'Église, d'avoir une vie de prière qui est en toutes circonstances, en tout événement, être centrée sur Christ. Nous avons vu au mois de novembre comment qu'on voulait être cette église de prière, c'est-à-dire une église qui avance, une église qui prie, qui met la prière au centre de sa célébration. On a vu quelques réflexions qui sont tirées du renouvellement de l'église. C'est un ministère que je suis depuis plus d'une année avec d'autres pasteurs pour être renouvelé, encouragé. Et il est dit, on a vu, il disait, la prière est l'élément clé pour jeter les fondations d'un renouvellement continu dans une église. En même temps, l'une des choses les plus difficiles à lancer dans une église. La prière est l'élément clé pour jeter les fondations d'un renouvellement continu dans l'église. En même temps, c'est l'une des choses les plus difficiles à lancer dans une église. Et c'est vrai que la prière, c'est pas facile. Voilà pourquoi qu'on continue de nous encourager. On a pu le voir comment que depuis la pandémie, on a mis en place la prière 3 fois par semaine à midi. Et comment qu'au début, les gens étaient là, les gens étaient motivés. Peut-être, bon, c'est vrai qu'on était peut-être coincés, peut-être chez nous. Mais avec le temps, bon, on arrivait de nouveau, on est revenu un peu dans notre routine, dans nos situations de faire les choses. Et on a vu quand même qu'il y a eu un certain relâchement. Il y a eu toujours un groupe très fidèle et on les remercie, qui prient fidèlement, avec persévérance, semaine après semaine, pour le Seigneur, pour les besoins, pour l'Église, pour connaître aussi la volonté de Dieu. Mais on voit que la prière est toujours un défi. Donc la prière doit devenir le standard des gens dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur lieu de travail et même dans leur ministère avec l'Église. Donc durant mon temps de retraite, j'ai lu un petit livre de Bill Bright, qui est le fondateur du ministère international Campus pour Christ. Je ne sais pas si vous connaissez ce ministère. C'est un ministère qui travaille principalement auprès des étudiants, mais il travaille dans différents domaines, dont aussi le film Jésus, le film qui a eu le plus de visionnement à travers le monde, d'évangélisation. Je sais qu'en Afrique, en Asie, il y a eu des milliers de conversions à travers ce film. Donc, c'est voilà un des ministères de Campus pour Christ. Et je lisais, prochain dia, je lisais justement le livre Dans l'attente du réveil. Et il nous partageait un peu, le fondateur, comment qu'il avait reçu cette révélation pour pouvoir de l'importance de la prière et du jeûne. Voici ce qu'il dit. Comment se fait-il qu'une grande partie de l'Église de Jésus-Christ soit devenue si faible alors que le Saint-Esprit qui est à l'origine du réveil? La réponse est simple. Nous n'écoutons pas Dieu et nous ne lui obéissons pas. Le plus gros péché de l'Église aujourd'hui est l'incrédulité et le manque de confiance. Il est impossible que quelqu'un brûle pour Dieu si Dieu n'occupe pas la première place dans sa vie. Belle phrase, hein? Comment ça se fait que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est la puissance de Dieu, qui veut faire de grandes choses à travers nous? Comment ça se fait que l'Église soit si faible, malgré que nous avons la puissance de Dieu en nous? Voilà l'importance, justement, d'aller voir dans la prière, dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe. Et comme il a dit, c'est vrai que justement, peut-être que nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne le laissons pas entièrement brûler en nous. Nous laissons peut-être des choses de ce monde, nos pensées, obscurcir un peu ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Et nous faisons d'autres choses, au lieu de s'attarder à l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi l'importance de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Même dans ce temps de Noël, qui est un temps de réjouissance et de joie normalement, mais de savoir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Pourquoi je suis si, si j'ai, pourquoi j'ai plus de passion pour toi? Pourquoi que je te relègue dans d'autres choses? J'ai tellement d'autres choses à faire, je dois m'occuper de mon travail, de ma famille, de gagner de l'argent, de faire toutes choses. Puis Dieu, ben, je le mets peut-être le dimanche, puis peut-être de temps en temps encore la semaine. Mais pourquoi que je ne mets pas en priorité ma relation avec Dieu? Pourquoi que le Saint-Esprit ne brûle pas en moi? Pourquoi que mes voisins, ma famille, mes collègues du travail ne connaissent pas Christ à travers moi? Donc le Seigneur veut nous dire ce matin qu'en même temps que nous rappelons de l'espérance que Jésus est venu apporter au monde dans ce temps de Noël, de se rappeler que les chrétiens ont besoin de vivre cette espérance de Jésus d'une façon juste et complète, et que l'Église a ce rôle d'annoncer cette espérance avec force et puissance. Prochain dialogue, ouvrons notre Bible dans Joël chapitre 2, versets 12 et 17. Joël chapitre 2, versets 12 et 17. Il y a des Bibles en arrière si vous voulez pour suivre avec nous, pour qu'on puisse comprendre ce que Joël, ce petit prophète, a parlé par rapport à ce sujet. Verset 12. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations, déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait annoncé. Qui sait? Peut-être que l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu? Sonnez du cor dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Verset 16. Réunissez le peuple! Convoquez l'assemblée, rassemblez les veillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié abandonne sa chambre et que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre le portique et l'autel. Qu'ils prient ainsi, ô Éternel, aie pitié de ton peuple, n'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux railleries de les nations, car pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Quand j'ai lu ce texte, lors de ce temps de jeûne, ça m'a attristé. Ça m'a attristé parce que j'ai pris ce texte aussi pour nous. Pour nous, aujourd'hui, en 2023. Le monde autour de nous raille les chrétiens. Le monde autour de nous raille l'Église. Ouf, l'Église, c'est rien, elle n'a pas de puissance, elle ne fait rien. C'est juste des petits gens qui vont se rencontrer, qui font quelques activités, mais ça ne change rien dans le monde, ça ne change rien dans leur vie. Prochain dia, on le voit pourquoi. Comme une Joël, on a besoin de voir. Dans le verset 12, il est parlé de revenir à l'Éternel, c'est-à-dire de revenir vers Dieu dans notre attitude, dans notre fonctionnement, notre façon de faire les choses. Mais il y a un bout de phrase dans ce verset 12 qui est très important. Il dit « de tout notre cœur ». Ici, il n'est pas ici de faire semblant de revenir à Dieu, c'est-à-dire de venir avec notre raison, peut-être même avec notre corps physique, mais de revenir avec un cœur sincère et complet. Un cœur qui veut se laisser toucher par le Seigneur. Un cœur qui veut s'humilier, comme nous l'avons mentionné la semaine passée. Un cœur qui est contrit avec une véritable repentance. Il est dit aussi dans la suite de ce verset, avec des larmes et des lamentations. Non pas des fausses larmes ou des lamentations qui sont juste pour montrer qu'on s'humilie. Juste pour démontrer que nous sommes de la tristesse, mais des véritables larmes, lamentations, qui sont sincères devant nos péchés, devant l'éloignement que nous avons fait envers notre Créateur, notre Dieu. Le prophète demande au peuple pas juste d'adorer Dieu, juste avec les bouts des lèvres, mais qu'avec un véritable cœur, une véritable repentance, avec larmes, avec lamentations. Et il est dit aussi au verset 13, encore une fois, que Dieu ne veut pas que nous déchirons juste nos vêtements, mais notre cœur. Dans le temps de l'Ancien Testament, lorsque les gens étaient dans la lamentation de la tristesse par rapport à une situation, ils déchiraient leurs vêtements pour signe de leur contrition, pour signe de leur lamentation. Mais souvent, les Israélites ont déchiré leurs vêtements pour démontrer aux autres qu'ils étaient dans la lamentation, qu'ils étaient dans la repentance, mais pas d'une façon véritable. Pour nous aujourd'hui, nous pouvons avoir la même attitude. On peut démontrer à l'extérieur que notre repentance, notre humilité, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas touchés. Ça ne change rien en nous. Les gens autour de nous vont voir les signes extérieurs de cette repentance intérieure, vont voir réellement si nous sommes un cœur contrit, si nous sommes un cœur qui est renouvelé par Dieu. Le Seigneur, lui, le voit réellement. Il connaît nos pensées, nos cœurs. Il connaît exactement là où nous sommes. Prochain diable voit dans le verset 12 qu'il y a un mot que nous n'avons pas cité encore, que le prophète Joël exhorte le peuple d'Israël à revenir à Dieu. Il est dit avec tout votre cœur, avec des larmes de lamentation, et il est rajouté le mot avec le jeûne, avec le jeûne. Ce mot jeûne m'a interpellé dans mon temps de retraite. Je ressentis comment que la prière est importante, encore plus en église, c'est-à-dire en prière collective, tous ensemble. J'ai découvert important aussi comment que le jeûne est important et fait partie de l'équation, soit autant pour nous personnellement, mais aussi en tant qu'Église, afin d'avoir le résultat fort de revenir à l'Éternel de tout notre cœur. De comment que le jeûne, justement, permet d'aller plus en profondeur avec le Seigneur, d'aller chercher plus la face de Dieu. Et c'est là qu'on arrive au deuxième terme de 2 Chroniques 7, 14, qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. On recherche sa face à travers le jeûne. Et j'ai réalisé encore plus comment que le jeûne permet justement de rechercher la face de Dieu, d'être vraiment comme connecté à Dieu. Vous vous rappelez, au début de l'année 2023, on a pris cette importance de l'écoute. On a un peu regardé comment que Dieu nous parle. L'importance d'écouter dans nos prières, pas juste de donner nos besoins, nos requêtes à Dieu, mais d'attendre aussi le temps devant Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Et on voit que rechercher la face de Dieu, c'est la même chose. La recherche de la face de Dieu, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut prendre le temps. Il faut être disponible sans arrière-pensée. Il faut le faire à tout moment, lorsque Dieu nous demande qu'on soit disponible. Que ce soit au début de la journée, à la fin de la journée, dans des journées particulières comme en temps de retraite, comme j'ai fait, qui peut être fait aussi par d'autres personnes. Et le jeûne permet justement de rentrer de tout notre cœur, comme Joël justement le mentionne, nous encourage, dans la présence de Dieu, de se connecter d'une façon nouvelle, complète avec notre Seigneur. Et pourquoi? Parce que le jeûne, c'est comme cette attitude d'enlever quelque chose d'important ou d'essentiel à notre vie. Normalement, quand on jeûne, ben, normalement, on jeûne d'un repas ou de la nourriture. Donc, le repas, la nourriture est essentiel pour notre corps. On a besoin de nourriture pour pouvoir vivre. Mais on enlève ce qui était essentiel à notre vie pour pouvoir se connecter d'une façon nouvelle avec Christ, avec le Seigneur, pour démontrer que même les choses essentielles de notre vie, c'est-à-dire la nourriture et d'autres choses, on peut le mettre de côté pour pouvoir vivre un temps spécial avec Dieu. Prochain dia, alors. Regardons justement ce que justement Bill Bright dit dans ce livre, le petit livre, par rapport au jeûne. Il dit le premier point, le jeûne est une manière biblique de s'humilier devant la face de Dieu. Et on l'a vu justement la semaine passée. Et on le voit dans Esdras, chapitre 8, verset 21. Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance de leur péché, ont été déportés à Babylone pour un temps. Et à un moment donné, le roi de Babylone les encourage à retourner en Israël, à Jérusalem. Et là, Esdras, qui est justement un des personnes, des sacrificateurs, qui dans la lignée justement des sacrificateurs, va les accompagner. Et là, avant de partir, c'est un voyage de plus de 3 mois. Il proclame un jeûne pour tout le peuple pour dire, il faut qu'on proclame un jeûne pour qu'on puisse avoir la sécurité. Rappelez-vous qu'ils sont partis sans garde, sans soldats, protection et comme ça. Et durant 3 mois qu'ils ont voyagé, ils n'ont eu aucun problème. J'aimerais vous raconter une petite histoire que je lisais dans le livre. Durant la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, l'armée allemande a encerclé, avançait en France et a encerclé les armées françaises et britanniques au bord de l'eau. Plus de 400 000 soldats étaient comme coincés entre la mer et l'avancée. Et à ce moment-là, l'avancée allemande était vraiment très forte. Et là, ils ont décidé de proclamer un jeûne national. Donc en France, en Angleterre et dans d'autres pays, à un moment donné, toute la nation s'est arrêtée. Les gens dans les fabriques, chez eux, Allez dans les églises, priez, demandez la grâce de Dieu, demandez pour la protection de ces soldats, puisqu'ils voyaient que s'il n'y avait pas quelque chose qui changeait, ils allaient être massacrés. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À la surprise générale, Hitler a décidé d'arrêter l'offensive pour quelques jours. Et durant ce temps-là, les Alliés ont pu aller amener des bateaux pour évacuer tous les soldats. Malgré des pertes, ils ont été capables d'aller sauver 340 000 soldats. Ça, c'est la puissance de la prière et du jeûne. Parce que le peuple, même que le peuple était à des milliers de kilomètres, ont prié, intercédé pour leurs frères, pour leurs fils, pour leurs enfants qui étaient là-bas, qui allaient être massacrés. Et Dieu a entendu, Dieu a arrêté la prière, la guerre à un moment donné pour pouvoir libérer ces personnes. La prière, le jeûne a une puissance. Le deuxième point, par le jeûne, le Saint-Esprit révèle la véritable état spirituel d'une personne. Cela conduit à la repentance et au renouvellement. Et c'est ça qu'ils ont fait aussi, Esdras et tout le peuple. Avant de retourner à Jérusalem, ils se sont humiliés. Ils ont renouvelé leur engagement avec Dieu pour dire, on fait ce voyage de retour pour retourner dans notre pays promis, pour pouvoir nouveau dire, oui, on a désobéi à Dieu, on était chassé loin de notre pays, mais maintenant on retourne et on veut avoir une attitude, un cœur complet pour le Seigneur. Ça transforme principalement notre relation avec Dieu, approfondit notre vie en Christ et nous procure une plus grande conscience de la réalité de la présence de Dieu lorsqu'on fait le jeûne. Le jeûne réduit la puissance de notre moi, de sorte que c'est le Saint-Esprit qui peut travailler plus intensément en nous. Et un troisième point qui dit, le jeûne est un moyen déterminant en vue d'un réveil personnel. Quand quelqu'un jeûne, le Saint-Esprit travaille en lui d'une manière inhabituelle et puissante. Peut-être que vous l'avez vécu vous-même. Moi, je le vois aussi. Lorsque je prends des temps de jeûne, je vois comment que ma vie est renouvelée. Je vois comment que la puissance de Dieu se manifeste d'une façon nouvelle. Le jeûne est un moyen de rétablissement important. Si notre âme s'humilie, le jeûne libère le Saint-Esprit afin qu'il puisse faire une œuvre nouvelle, particulière de réveil en nous. Et on a besoin de ce réveil, on prie pour le réveil, on prie pour le réveil. Mais premièrement, le réveil va se faire par nous chrétiens. On a besoin de se réveiller pour pouvoir réveiller ensuite la population, la communauté autour de nous. Le jeûne améliore nos perceptions spirituelles en faisant taire notre raisonnement et nos sentiments. Parce que oui, le jeûne, on enlève quelque chose qui est essentiel pour dire, Seigneur, je prends ce temps pour toi. Mais le Seigneur comble ce besoin essentiel par sa présence et nous pouvons vivre des belles choses avec le Seigneur. On va voir maintenant l'importance du jeûne. Voir que le jeûne, on le voit dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a été fait depuis des siècles. De ce désir de nous humilier, de nous préparer à la présence de Dieu, de vivre vraiment une connexion avec le Seigneur. Donc le jeûne dans l'Ancien Testament était la façon de se rapprocher de Dieu, de rechercher sa face, d'être transformé par lui. On peut voir Moïse, rappelez-vous Moïse qui a passé 40 jours sur la montagne, où Dieu l'a révélé tous les lois et commandements qu'il a donnés pour son peuple. Et on voit comment que Moïse a été transformé lorsqu'il est descendu de cette montagne. On peut le voir aussi avec Daniel, comment que son jeûne a permis de recevoir des prophéties qui ont permis de comprendre ce qui se passait autour de lui et même dans l'avenir. Et il y a tellement d'autres personnages dans l'Ancien Testament qui ont vécu le jeûne et que ça a eu un impact pour eux et pour le peuple. Dans le Nouveau Testament, on voit que cette pratique a été poursuivie par Jésus dès le début de son ministère. Il a pris ce temps seul avec son Père Céleste dans le désert pendant 40 jours. Il s'est préparé et il a reçu vraiment cette puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir agir, pour que durant les 3 prochaines années, il puisse voir l'action, la puissance de Dieu se manifester. Puis l'Église primitive a continué sur cette lancée et a fait du jeûne une habitude pour des besoins spécifiques. On le voit comment que l'Église a mis de côté Paul et Barnabas pour la mission mondiale. Actes chapitre 13, verset 2. Acte chapitre 13, verset 2, il dit, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit comment que l'attitude de la prière avec le jeûne a préparé à recevoir les indications pour mettre à part justement ces deux hommes. Et on voit comment cette église les a préparés dans le verset suivant. Dans le verset 3, il est dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et on connaît à travers les actes, à travers les différentes lettres de Paul, de l'impact de ces hommes, de comment par la suite ils ont pu annoncer l'évangile, comment ils ont pu voir la puissance de Dieu agir, comment qu'ils ont développé des nouvelles églises dans toutes les régions. Prochain dia, alors pour nous aujourd'hui, dans nos églises, je vois que de plus en plus on commence à nous rappeler de l'importance du jeûne, que cette pratique peut encore se faire aujourd'hui. Comment qu'elle a un impact vers ceux qui le font avec tout leur cœur. Mais le défi, et je pense que vous avez la même question, c'est, mais est-ce que je peux vraiment faire le jeûne? Est-ce que je suis capable de me passer de la nourriture? Est-ce que je suis capable de réellement faire, peut-être pas 40 jours, mais même juste un jour, un repas? Oui, le jeûne est difficile. Et c'est justement là le défi. C'est justement la difficulté du jeûne qui nous permet de dire, Seigneur, je ne peux pas compter sur moi. Je me rappelle que la première fois que j'ai voulu faire un jeûne, j'ai tenu 2-3 heures, puis après j'ai dû aller manger une pomme, tellement j'avais faim, je ne pouvais pas. Peut-être parce que je ne suis pas venu avec une véritable attitude, mais aussi parce que le jeûne, ça s'apprend, ça se développe. Vous allez voir que les premières fois, au bout de peut-être un jour, 2 jours, vous allez voir que ça va être difficile, parce que la faim vous tenaille, la faim, votre estomac réclame, mais donne-moi à manger. Puis là, vous dites, non, je veux, à la place de la nourriture physique, je veux la nourriture spirituelle. Et Dieu va vous donner cette paix, va vous donner cette grâce. Oui, c'est difficile. Mais celui qu'on le fait, vous allez voir les bienfaits. Le pasteur Ray, dans le renouvellement de l'Église, va dire, si la Bible met l'accent sur les jeûnes de nourriture, il existe d'autres types de jeûnes que nous pouvons pratiquer. Mais vous vous demandez peut-être encore pourquoi jeûner dans des bonnes choses. C'est simple, en effet. En jeûnant même de quelque chose qui est bon, nous nous rappelons d'aimer Dieu en premier, car c'est lui qui nous donne tous les bons cadeaux. Ce qui veut dire, c'est que oui, peut-être c'est vrai que principalement le jeûne s'est fait à travers la nourriture. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres façons qu'on peut jeûner. Donc peut-être si peut-être vous avez des problèmes de santé, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention quand même par rapport à la santé, par rapport à notre travail, par rapport à notre cheminement. Mais il y a d'autres façons de jeûner, il y a d'autres façons de prendre le temps, de enlever quelque chose qui est bon pour nous, pour pouvoir vous dire, Seigneur, je veux ta présence plus, je veux goûter à quelque chose de nouveau avec toi. Le vrai motif du jeûne, c'est de démontrer à Dieu et non pas aux hommes, de démontrer que nous mettons notre relation avec Dieu en premier, que notre cœur tout entier est à lui. Alors, prochain dia, regardons comment nous pouvons jeûner de différentes manières. Que ce soit la nourriture ou d'autres choses. Par exemple, on peut faire des jeûnes de nourriture, mais par rapport à peut-être des sucreries. Hein? Peut-être que vous aimez bien le chocolat, vous aimez bien prendre des bonnes choses après le repas. Ben, vous dites pour un certain temps, ben, je refuse de prendre ces choses-là. Et là, le corps va vous demander, hein, quand, surtout le sucre, hein, il va vous demander, hey, donne-moi ma dose de sucre. Et là, vous dites, non, Seigneur, dans ce temps-là, je m'appuie sur toi. Les jeûnes de dépenses. Ne pas faire des sorties au resto, ne pas s'acheter de café, ne pas faire des dépenses de divertissement. Peut-être que vous avez l'habitude d'acheter votre café à tous les matins, au Tim Hortons ou ailleurs. Dire, Seigneur, au lieu d'aller acheter, je prends cet argent pour le mettre pour toi et je prends ce temps aussi pour être dans ta présence. Les jeûnes de loisirs. Peut-être que peut-être plus les jeunes, et comme ça, ils aiment faire des loisirs, faire des choses. Dire, Seigneur, je veux arrêter un certain temps cela. Une ou deux loisirs pour pouvoir prendre le temps avec toi. Des jeûnes de jeu, hein? On a tous nos jeux sur nos cellulaires, on aime bien jouer, hein, dès le matin. Dire Seigneur, ben, dès le matin, je veux prendre le temps avec toi. Des jeûnes de médias, hein, médias sociaux, hein? Comme on a dit, hein, c'est notre cellulaire, c'est notre petit Dieu aujourd'hui, hein? Hein? On le voit, même à l'église, je le vois, moi, parce que je suis devant, je vois en face de vous, je vois ceux qui pianotent aussi, hein? Hein? On peut dire aujourd'hui, oui, pasteur, je suis en train de pianoter sur ma Bible, peut-être. Mais on voit comment, dès qu'on reçoit une petite alarme, un vrombissement, tout de suite, on va aller voir un petit message encore, qu'on a besoin de répondre et comme ça. Seigneur, je veux laisser les médias sociaux pendant une journée, 2 journées, une semaine. Vous savez, les étudiants, c'est ça qu'ils font. Eux, généralement, ils ne font pas les jeûnes de nourriture, mais ils font le jeûne des médias sociaux. Et je vous garantis que pendant une semaine, si un jeune n'a pas de médias sociaux, n'a pas de cellulaire, là, comment qu'il crie famine, hein? Les jeûnes d'injustice et de péché. Des jeunes vont dire, Seigneur, mais je veux vraiment dans ce temps-là d'avoir une bonne attitude, pas avoir des péchés, pas avoir vivre l'injustice. On le voit dans Ésaïe 58. Le prophète Ésaïe transmet la réprimande de Dieu à Israël, parce que c'est toute une réprimande qu'il dit. Le peuple jeûnait d'habitude, mais leur vie était remplie de péchés, d'injustice, de recherche de plaisir, d'oppression. Puis il va leur dire, voici le vrai jeûne. Allez lire l'Ésaïe 58. Voici le jeûne que je préconise. Dieu leur dit essentiellement qu'ils doivent jeûner de leurs péchés, de leur injustice. Parce que le jeûne irrégulier qu'ils voulaient faire ne signifiait rien, parce qu'ils continuaient à rompre les promesses de Dieu, à continuer de manipuler leurs serviteurs, leurs servantes, à continuer de fausser la monnaie. Aujourd'hui encore, on peut faire différents jeûnes. Et tout le monde peut le faire, si nous avons le désir, la volonté de le faire. Et c'est quoi l'impact de la véritable repentance, de s'humilier, de rechercher la face de Dieu? On le voit dans Joël chapitre 2, versets 13 et 14 que nous avons lu tout à l'heure. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont ils avaient menacé. Il renonce volontiers au malheur qu'il avait menacé. Qui sait? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il, changera lui aussi une ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. On a parlé tout à l'heure de cette importance d'être généreux pour le Seigneur, de dans ces derniers mois dire Seigneur, tu m'as tellement béni dans l'année 2023, je veux te redonner une partie. Qui sait que le Seigneur peut-être vous dire, ben, donnez un don généreux. Mais Seigneur, tu vois que j'ai besoin de cet argent. Fais-le avec cœur, avec volontiers, fais-le avec empressement, et tu vas voir comment que le Seigneur peut te bénir. N'est-ce pas ce que nous aimerons vivre avec le Seigneur? Que le Seigneur renonce au malheur, que le Seigneur renonce aux épreuves, aux souffrances que nous vivons, que le Seigneur renonce à tout ce qui se passe dans le monde, les bouleversements, les guerres, les malheurs, les situations climatiques. De vivre une bénédiction qui va bénir l'Église et le peuple chrétien. Alors pour terminer, prochain dia, j'ai parlé de l'importance de la prière et du jeûne ensemble, afin que durant ce temps de Noël, qui est en vrai que c'est un temps de joie et de reconnaissance, que nous puissions même réfléchir, de voir la possibilité après de prendre ce temps de jeûne et de prière, de se préparer. Voilà pourquoi qu'au début de l'année 2024, nous allons prendre un temps de prière et de jeûne. Du 9, comme on l'a vu dans les annonces, du 9 au de 8, je pense du 7 plutôt, du 7 janvier au 13 janvier. On va la faire avec l'Église méthodiste du Canada complet. C'est l'Église qui nous encourage à prendre ce temps de prière et de jeûne, qui va nous apporter des méditations, qu'on aura des temps de prière ensemble avec tous les chrétiens, les méthodistes à travers le Canada. Et nous allons aussi avoir des rencontres ici aussi, en tant qu'Église. Dire Seigneur, oui, dans ce temps de décembre. Je veux t'honorer, je veux revenir d'un cœur complet à toi. Je veux de tout mon cœur revenir. Je veux t'honorer, je veux être ce cœur généreux pour t'adorer, te louer, à travers mes offrandes, à travers le temps que je passe avec toi. Mais Seigneur, prépare-moi aussi, prépare-moi que je puisse prendre ce temps de prière. Et le temps de prière de jeûne, ça se prépare. Parce que si vous prenez le même temps, si vous prenez les mêmes conditions, si vous faites la même chose de courir à gauche, à droite, ça va être difficile de faire un temps de jeûne. Il faut se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses pendant une semaine, ou peut-être 2, 3 jours, ou peut-être un jour, que je peux arrêter? Peut-être juste prendre un repas par jour, de sauter un repas. Peut-être juste 2 jours, peut-être d'arrêter, comme on l'a dit, différentes choses. Mais il faut se préparer. Il faut dire, Seigneur, prépare-moi. Parce que si par moi-même, je n'arriverai pas. Si je dois le faire parce que le pasteur le dit, parce que l'Église le fait, mais que je ne suis pas convaincu, je ne vais pas arriver. Parce que l'ennemi nous guette. Il va dire, hey, tu as des bonnes intentions. Tu veux faire le jeûne, c'est bien. Mais je sais que tu ne vas pas être capable. ne seras pas capable d'abandonner ton cellulaire, tu ne seras pas capable d'abandonner tes jeux, tu ne seras pas capable tu vas, à bout de 2-3 heures, tu vas avoir faim, puis tu auras besoin de nourriture. Un texte qu'on va étudier dans les premières semaines de janvier, Jérémie chapitre 33, verset 3, un verset que j'ai justement reçu aussi dans ce temps de jeûne et de prière que j'ai prié seul. Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Seigneur, c'est notre désir. Des choses secrètes pour moi, pour ma vie. Seigneur, qu'est-ce que 2024 me prépare? Tu vois ma situation peut-être de travail, de ma vie. Tu vois ma situation avec mes enfants. Tu vois la situation que je vis. Seigneur, je veux connaître les choses secrètes. Je veux connaître ce que tu as préparé pour moi. Je veux me préparer. Je veux préparer le terrain pour que je sois prêt lorsqu'arrivera peut-être des dents d'épreuve, des souffrances. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour l'église de Saint-Henri? Qu'est-ce que tu attends pour le quartier de Saint-Henri, pour la ville de Montréal, pour ce monde? Le Seigneur veut nous donner les choses secrètes, veut nous révéler de grandes choses. Mais pour cela, il attend. Il attend qu'on soit disponible. Il attend qu'on soit dans sa présence. Alors voilà pourquoi il veut que nous puissions prendre le temps. Je vous encourage dans ce temps de Noël, même si vous avez envie de prendre peut-être un jour de jeûne ou un repas, pour dire, Seigneur, même dans ce temps de Noël, je veux faire une différence. Je veux reconnaître que c'est ton espérance et ta joie, ta seule paix qui vient dans ce monde et qui peut m'aider à avancer. Mais je veux aussi le partager aux autres. Je veux pouvoir aussi le dire à mes frères et sœurs dans ma propre famille, à peut-être mes collègues de travail, à mon voisin, à mes amis. Est-ce que le Seigneur a quelque chose pour nous dire, à nous personnellement? Est-ce que le Seigneur a quelque chose de caché qu'il veut révéler à notre famille? Est-ce que le Seigneur a quelque chose à nous dire à l'église Carrefour de Saint-Henri? Alors voilà pourquoi que je désirais encore parler du jeûne, de la prière encore, par rapport à ce texte de 2 Chroniques 7, 14, afin que nous puissions réaliser qu'encore aujourd'hui, nous sommes appelés, même si ce n'est peut-être pas une habitude, même si peut-être c'est la première fois que vous entendez l'importance du jeûne. Mais lorsqu'on y goûte, lorsqu'on le fait sincèrement, Dieu agit. Parce que lorsqu'on le fait, on est en présence de Dieu. On laisse les choses essentielles de notre vie, de notre physique, de notre vie de tous les jours, de côté pour dire, Seigneur, je suis avec toi. Parle-moi. Je veux t'écouter. Je veux être transformé, renouvelé. Et Seigneur, le vient. Alors, prions. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles à travers ta parole, à voir ces textes d'une façon réelle, à voir l'importance de s'humilier, de prier, de rechercher la face de Dieu. Et comme le texte le dit, alors je l'écouterai des cieux, alors je pardonnerai ses fautes, alors je guérirai son pays. Seigneur, on a hâte d'être guéri, guéri de nos souffrances, guéri de nos situations difficiles. On a hâte d'être guéri de ce qui se passe autour de nous, d'avoir une véritable paix, d'avoir une véritable puissance de ton esprit en nous et dans l'Église. On a hâte de voir un réveil en nous, un renouvellement, afin que ça puisse impacter aussi ceux qui sont autour de nous. Mais Seigneur, pour cela, tu nous dis de venir avec une attitude qui est juste. Comme tu l'as dit, Seigneur, dans Joël, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est notre désir ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos penchants, tu connais nos difficultés. Mais Seigneur, tu veux simplement qu'on vienne devant toi, librement. Qu'on épanche notre cœur devant toi. Qu'on se repent, qu'on s'humilie, qu'on recherche ta face, qu'on prend le temps devant toi. Et toi, Seigneur, tu vas nous guérir, tu vas nous restaurer. Nous te remercions, Seigneur, parce que quel que soit là où nous sommes, quels que soient nos besoins, nos demandes, tu nous écoutes. Tu es là, tu n'es pas trop occupé avec d'autres chrétiens, avec d'autres personnes. Tu es un Dieu personnel pour chacun de nous. Et tu veux encore dans ce dernier mois de l'année venir nous restaurer. Tu veux encore venir nous renouveler. Tu veux encore venir pour partager ton cœur, pour pouvoir nous révéler des choses cachées, pour nous révéler des choses secrètes que nous ne connaissons pas, parce que tu es un Dieu qui est plein de grâce, de bonté. Alors oui, Seigneur, on veut s'attendre à toi. Bénis chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur, dans cette marche de jour après jour avec toi. Permets que nous puissions être encouragés, renouvelés, fortifiés dans notre foi. Et que dans ce temps, Seigneur, dans cette période de Noël, nous puissions être des témoins fidèles de toi. Nous puissions, Seigneur, que les gens puissent voir notre joie, notre paix que nous avons, notre espérance que nous avons en toi. Bénis l'Église Carrefour de Saint-Henri, afin que cette Église puisse continuer de grandir, de progresser en toi, afin que les gens puissent venir librement, être attirés par toi, pour pouvoir venir célébrer avec nous, de pouvoir contempler ta face avec nous. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, parce que tu es grand, tu es bon avec chacun de nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.